África, creación, creación, creación. Se retrouver en duplex avec notre studio du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler un petit peu des différentes difficultés que rencontrent les entreprises en cette période. Fatou Yatabaré, normalement Fatou, tu es en poste avec notre invité. Bonjour Fatou, comment ça va?
Ça va très bien Aïssa, et toi?
Ça va, on nous entend bien?
Oui, très bien, comme si tu étais en face de moi.
On va parler d'entrepreneuriat en cette période. Les entreprises font face à de nombreuses difficultés. On va les évoquer dans un petit instant avec notre invité donc, que tu nous as recommandé. Il s'agit de Macha Bamba. Alors déjà, pourquoi avoir décidé d'inviter Macha ce matin, Fatou?
Alors Macha est une entrepreneuse vaillante sur la place. Elle est entourée de beaucoup d'entrepreneurs. Et elle a évoqué un fait qui est arrivé dans ses activités depuis le début de l'annonce de ce virus. Ouais. Et j'ai trouvé intéressant qu'elle vienne témoigner parce que ce sont des difficultés auxquelles beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés actuellement.
Ouais. Donc voilà. Alors, on va l'entendre justement. Macha Bamba, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et PDG de Challenge Company, que vous avez fondée en 2014. En fait, vous accompagnez les entreprises et plus précisément, vous accompagnez des acteurs économiques privés et des décideurs politiques dans leurs différentes prospections et acquisitions. Vous travaillez aux côtés de particuliers, mais aussi d'assureurs dans leurs projets d'investissement, d'industriels sur le développement de leurs activités dans six pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Gabon, la RDC, le Burkina Faso et le Bénin. Différentes zones de compétences, dont le domaine financier, juridique et la communication. En fait, vous menez vos différentes actions au plan national, mais aussi régional et international. Juste pour un petit repère, cette société, depuis sa création, a généré pas mal d'argent. Hein, puisque, juste pour l'année 2019, Challenge Company, c'est 200 000 francs CFA de projets. Alors, merci de nous rejoindre au téléphone d'Africa Radio. Alors, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu plus précisément Challenge Company? Je sais que vous l'avez fondé en 2014. Bonjour, Macha Bamba, bienvenue.
Bonjour. Bonjour. Alors, c'est 200 milliards de projets, ce qui change un peu les chiffres.
Milliards, pardon, désolée.
Merci de m'avoir invité ce matin pour prendre témoignage qui me tient vraiment à cœur. Alors, Challenge Company part d'une initiative, d'une frustration. Oui. J'étais alors employée dans une société israélienne pour laquelle j'étais business developer sur l'Afrique. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je monte ma propre société. Mes patrons avaient des bonus spectaculaire alors que nous n'avions aucune augmentation et c'est nous qui faisions vraiment tout le chiffre de l'entreprise. Donc j'ai décidé de me lancer, donc de retourner sur mes terres d'origine étant donné que mon père est d'origine ivoirienne.
Oui.
Et de créer donc ce cabinet en 2014. Donc d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 2016, je suis restée un peu consultante pour mes anciens patrons.
Ouais.
Et en 2016, j'ai décidé de me consacrer vraiment à mon activité pour pouvoir en vivre réellement. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait, le temps de prendre des contacts, parce que là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il fallait développer un réseau fort pour pouvoir prendre ma petite place. Étant une femme, c'est déjà pas très facile, parce que je fais aussi du lobbying politique. Donc, je suis confrontée à beaucoup d'hommes.
Ouais.
Et ça a pris le temps qu'il fallait. Et depuis l'année dernière, on a réalisé de très, très bons chiffres. Et voilà que cette année, on avait un pipe qui était plutôt intéressant. Mais depuis l'annonce même du virus sur la Chine, on avait commencé à sentir les inquiétudes de nos différents clients, les inquiétudes même des politiques ici à sortir du pays, parce qu'on les accompagne aussi dans leur prospection à l'extérieur,
ouais,
ou dans de simples rencontres avec leurs homologues. Et ça commençait à devenir compliqué. Donc en tant que cabinet, quand on fait du chiffre essentiellement sur le service et qu'on ne peut plus justement travailler, ça impacte directement le chiffre d'affaires, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises justement par l'État ivoirien ou les différents États dans lesquels vous travaillez pour compenser en fait et essayer d'aider les entreprises à ne pas fermer ou en tout cas des aides financières?
Alors, pas pour le moment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les choses prennent leur temps. On a déjà pris des mesures sanitaires et en tout ce qui concerne l'éducation pour le moment. Une sensibilisation a été mise en place, mais on ne parle pas encore des entrepreneurs. Ouais. On ne parle pas encore des entreprises en général dans le pays. Je pense qu'il y a un espèce de déni sur la situation réelle et sur l'impact de cette situation pour les restaurants, les agences de voyage, les sociétés de décoration. Il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de rassemblements, mais on n'entend pas encore de sensibilisation vers les entrepreneurs. Donc on prend un coup et ouais. on attend qu'il y ait une réaction au niveau de l'État qui soit concrète. Mais pour l'instant, rien.
Alors, quels sont les risques pour une entreprise comme Challenge Company? Quels sont les risques que vous encourez si la situation dure trop longtemps?
Alors, je suis désolée, j'ai pas entendu la question.
Quels sont les risques, en fait, si la situation dure plus longtemps?
Alors, les risques sont énormes, étant donné que nous, on ne fonctionne que sur le service. Donc, si vous voulez, si on ne peut pas travailler... Ouais. On a des salariés à payer, on a des engagements financiers envers diverses compagnies. Donc on est en train de réfléchir sérieusement à se diversifier, ne serait-ce que pour un trimestre, pour ne pas couler, parce que sinon ça ne va pas être tenable.
Et sinon, au niveau des employés, des personnes qui travaillent avec vous, vos collaborateurs, quel est leur état d'esprit? Est-ce que, par exemple, comme c'est le cas en France, est-ce que le télétravail est proposé aux employés?
Ah oui, nous, on a des groupes WhatsApp. On est toujours en contact. Ça, on fonctionnait comme ça avant parce que voilà, on a cet amour du digital qui faisait qu'on voulait au plus... digitaliser notre activité. Donc, sur le contact en nous, ça n'impacte pas tellement. Mais il y a la peur de l'employé parce qu'il se rend compte que l'entreprise traverse un moment qui est difficile. Et je pense qu'ils ont un peu peur aussi.
Alors, je sais que vous connaissez un petit peu la situation des Africains de la diaspora qui reviennent pour entreprendre sur le continent africain. Quel est leur état d'esprit? Et est-ce que, justement, toutes ces dispositions impactent aussi les Africains de la diaspora qui investissent au pays?
Alors, moi, je fais partie d'un rassemblement qui s'appelle RIPAT. Ouais, c'est un rassemblement qui a été créé à l'initiative de Madame Diallo Diba et qui rassemble tous les expatriés qui sont ici en Côte d'Ivoire où il y a la même initiative sur plusieurs pays. Mais du coup, nous, on est rassemblés ici. Et pour tout le monde, c'est la même chose. J'ai une amie qui a dû fermer son club, qui est son unique revenu. Donc, c'est un club avec des cours de tennis, de la natation... Il y a un bar sur place, il y a un restaurant. Et donc, tout son chiffre est bloqué parce qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir. Elle n'a pas d'autre source de revenus. Son personnel est donc à la maison aussi, mais elle va devoir payer son personnel. Et elle a pas mal de personnel. Donc, ça va lui coûter énormément, cette situation. Il y en a d'autres. J'ai une amie aussi qui est dans la décoration. Qui avait prévu pas mal de marchés, qu'elle avait encaissé en avance. Donc là, elle se retrouve dans une situation financière qui est difficile parce qu'elle a dû faire des commandes pour respecter ses engagements. Mais derrière, les événements ne peuvent pas avoir lieu. Donc, vous voyez, ça crée des situations vraiment compliquées. Ouais. Et personne ne s'y attendait vraiment. Personne ne s'est préparé, quand bien même la propagation... dans le monde, on a cru être à l'abri en Afrique. On a cru que ça n'allait pas nous toucher, que la chaleur allait faire que ça n'allait pas arriver. Et non, c'est bien dans plusieurs pays. Et là, on est tous en train de le comprendre et de le vivre de façon très brutale.
Alors, justement, vous parlez de ce mouvement de répat. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager également des actions de solidarité entre Africains partout à travers le monde pour essayer d'aider les entrepreneurs ou les entreprises qui ont le plus de difficultés à tenir financièrement?
Alors, le début de votre question.
En fait, est-ce qu'on pourrait envisager des actions de solidarité entre Africains partout dans le monde pour essayer d'aider ceux qui sont en difficulté?
Alors, au niveau de RIPAT CI, c'est quelque chose qui a déjà commencé. D'accord. Étant donné qu'on avait toutes et tous des activités dans des secteurs différents. Ouais. Donc, on a essayé de s'entraider et de faire intervenir, par exemple, chez Ponctuel, d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément du même métier. Je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai été appelée donc par un frère de RIPAT, Monsieur Tchako, qui a une société de transport. Ouais. Qui m'a proposé de le rejoindre sur un marché. Donc voilà. Et là, on va faire ce marché de transport ensemble. J'y connais rien, mais je sais que ça rapporte. Et en ce moment, j'ai besoin de développer d'autres sources de revenus. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on fait entre nous. On s'appelle sur des marchés, sur des conseils, etc., pour pouvoir faire tourner un peu les chiffres des uns et des autres. C'est des solutions qu'on a trouvées dans l'urgence. Et chaque jour, sur notre groupe, sur notre plateforme, nous discutons ensemble de solutions à envisager dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.
Comme on essaie toujours d'essayer de trouver un peu du positif dans des situations un peu compliquées, est-ce que justement ces éléments de solidarité ne vont pas, après, une fois que tout sera passé, permettre d'avancer un petit peu plus dans les différentes activités, Macha?
Bien sûr. Moi, je n'avais jamais envisagé faire autre chose que ce qui me passionnait. Et je me rends compte que là, par exemple, dans cette activité de transport, c'est du transport de vivres, donc qui va aller dans tout le pays. C'est très noble aussi. Ouais. Et c'est des questions de logistique, donc de réflexion. Et je réfléchis de la même manière que je m'organisais pour les déplacements de mes clients. Mais là, c'est des déplacements de camions. Et donc, why not? Pourquoi pas continuer après? On va dire que toute chose concourt au bien. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense continuer après. Donc, c'est une bonne chose dans tous les cas.
Alors, vous allez vous présenter en quelques mots avant de nous quitter. Vous avez un Master 2 en droit des affaires. Vous êtes installé en Afrique en 2009. Qu'est-ce qui vous a motivé à revenir sur le continent? Où étiez-vous avant le retour au Gabon?
Alors, moi, je suis née et grandie en France. J'allais très souvent en Afrique, dans des pays différents, pendant les vacances scolaires. Mais ce qui m'a poussée à rentrer en Afrique, c'est une phrase de campagne qui était à l'époque en France, « La France aimait là ou quittait là ». Et moi, je n'aimais plus la France dans l'air, je ne me sentais plus à l'aise. J'avais un petit garçon à l'époque qui était tout petit. Et donc, je me suis dit, il faut que je construise quelque chose maintenant dans un endroit où je vais me sentir bien. Et donc, ANPE International, avec ma conseillère, où est-ce que je peux aller? Elle m'a demandé, ça te dit d'aller en Afrique? Je lui ai dit oui, et voilà, j'ai eu cette proposition au Gabon, dans ce super beau pays. Et donc voilà, c'est le début de mon aventure africaine. Donc la première année, j'ai su que je ne reviendrais pas en France.
Alors ça a duré 5 ans, l'aventure gabonaise?
Oui, ça a duré 5 ans. Donc 1 an chez Total. Et après, donc, je me fais débaucher au cours d'une discussion pendant un déjeuner par un groupe israélien qui m'avait été présenté par un ami. Ils m'ont dit, on aime bien ton élocution, on aime bien comment tu t'exprimes. Tu ne voudrais pas aller négocier pour nous des contrats sur l'Afrique? J'aurais dit, bon, bah, pourquoi pas, ce n'est pas ma formation de base, mais je vais essayer. Et ça m'a passionnée. C'est négocier, participer au développement du continent, partir sur des gros projets d'agriculture et de développement durable pour le continent. Ça a été une belle surprise pour moi. Et depuis, voilà, moi-même, j'en vis maintenant.
Alors justement, vous expliquez également, avant la petite histoire, que au sein de ce groupe, vous avez réalisé en 4 ans un chiffre d'affaires de 43 milliards. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte de votre valeur. Et c'est à partir de ce moment que vous vous êtes dit, il faut que je me lance à titre personnel.
Oui, bien entendu. Moi, j'étais business developer. Alors, j'arrive dans un pays, je cherche les contacts au niveau administratif et politique d'abord pour aller vendre un projet. Ensuite, je vais chercher les ressources dans les différentes banques et organismes financiers. Et j'arrive dans le pays, j'y vais jusqu'à la signature du contrat commercial du projet, et même moi, jusqu'à la signature du contrat financier. Donc je me suis rendu compte à un moment donné, tu fais tout le boulot, et à la fin de l'année, tu as des patrons qui embauchent des millions de dollars de bonus. Je me suis assise et je me suis dit, bon, si tu fais ça pour eux, tu peux le faire pour toi. Au début, mon père m'a dit, non, attention ma fille, c'est pas la même chose. Je lui ai dit, non, mais je vais quand même essayer de le faire seule. Et ça a été difficile, hein, les deux premières années, je n'ai pas gagné grand-chose. Mais ce type de deal, on se rend compte de la lucrativité du métier, quoi.
Il reste deux petites minutes. Je vais vous laisser conclure. Peut-être que vous avez envie, parce que c'était l'objectif également de votre passage ce matin sur l'antenne d'Africa Radio, de dire aux entrepreneurs, de nous serrer les coudes. C'est une période qui n'est pas aussi facile. Comment vous avez envie de conclure ?
Alors déjà, j'ai envie d'avoir une pensée pour tous les parents qui sont aussi entrepreneurs, parce que ce n'est pas facile de jongler entre les enfants à la maison et justement toute cette difficulté professionnelle. Donc j'ai une grosse pensée pour tous les parents qui se retrouvent là bloqués. Et quant à tous les autres entrepreneurs qui sont dans la difficulté, n'hésitez pas à vous réinventer. N'hésitez pas à vous rapprocher les uns les autres. N'hésitez pas à repenser votre propre activité. Ne pas avoir peur de renaître à travers cette difficulté. Voilà.
Merci beaucoup, Masha Bamba. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et PDG de Challenge Company, que vous avez fondée en 2014 et que vous agissez dans 10 pays africains, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Gabon, RDC, Burkina et Bénin. Merci beaucoup pour ce témoignage et merci également pour cette interview. Fatou Yatabaré, tu es toujours là ?
Oui, je suis là. J'écoute attentivement Masha. Elle a un parcours juste magnifique.
Incroyable.
Vraiment.
Et à féliciter, donc merci beaucoup à vous du côté d'Abidjan. On salue toute l'équipe, hein. Bon courage Fatou, parce qu'on connaît les conditions. Merci beaucoup Fatou, on vous embrasse.
Merci à vous.
Et on se retrouve très vite.
Bientôt.